C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, il a passé sa vie la tête dans les étoiles, à observer les galaxies pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Ses livres et ses conférences nous ont fait prendre conscience, parfois dès l'enfance, que nous sommes infiniment petits dans une immensité qui nous dépasse. Nous vivons sur une planète bleue qui tourne autour d'une étoile jaune, le Soleil, dans une galaxie, la Voie lactée, comme il y en a des milliards dans l'univers. Mais à 85 ans, l'astrophysicien Hubert Reeves est inquiet. L'homme va-t-il continuer à abîmer cette planète au point de la rendre inhabitable. Son combat est là, désormais. Les pieds sur Terre et le regard bleu perçant plus aiguisé que jamais, il nous alerte à travers un documentaire « La Terre vue du cœur » réalisé par Lolande Cadrin-Rossignol qui vient de sortir sur les écrans français.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour, bonjour madame.
Vous êtes le président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité que vous avez dirigée dès 2001. Cela fait donc 17 ans que, en parallèle de vos travaux d'astrophysicien, vous défendez la biodiversité, une passion qui date d'une quarantaine d'années et qui est née, dites-vous, assis sur un banc, face à un étang, dans votre maison, en Bourgogne, dans le centre de la France.
Oui, j'ai eu beaucoup l'occasion, sur ce fameux banc, justement, de réfléchir à toute cette question, de m'interroger, qu'est-ce qui se passe, où allons-nous, quel est notre avenir, et tout ça. C'est des préoccupations. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je suis inquiet de savoir quel sera l'état de cette planète dans 50 ans. Moi, dans 50 ans, je ne serai plus, sans doute. Mais eux, il y en a qui ont 3-4 ans, ils ont toutes les chances. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme planète? On ne peut pas répondre à cette question, parce que l'avenir est inconnu. Mais il faut faire en sorte, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle reste habitable et agréable.
Parce que vous dites que même au niveau de votre petit étang, vous avez vu des changements.
Ah oui, tout à fait. C'est une maison de campagne que nous avons en Bourgogne depuis une quarantaine d'années. Et effectivement, je me souviens quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'hirondelles qui tournaient le soir autour de cet étang. Maintenant, quand je vois une hirondelle, j'ai de la chance. Nous avons un arbre à papillons. C'est un arbre que les papillons adorent. Eh bien, quand nous sommes arrivés, il y avait 10 variétés de papillons qui tournaient autour par les belles journées d'été quand il faisait chaud. Maintenant, on en a un ou deux. On le voit devant nous. On voyait beaucoup de libellules, on voyait beaucoup d'éléments. On a vu sous nos yeux. Et tout le monde, je pense, a pu constater, s'il a un certain âge, que c'est à l'échelle de notre vie que les transformations se font, et que les transformations se font généralement, pas toujours, mais généralement dans un mauvais sens, plutôt une détérioration qu'une amélioration.
Alors, est-ce que le lien entre vos deux passions, l'infiniment grand avec l'univers et l'infiniment petit comme les bactéries, les vers de terre, tous ces petits insectes, ces papillons, etc. Ce n'est pas tout simplement une fascination pour la vie, au sens large, pour l'évolution du vivant.
C'est là, bien sûr. Mais c'est aussi, souvent on me demande quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie. Eh bien, je réponds que l'astronomie, elle nous raconte une histoire. Elle raconte notre histoire. Elle raconte comment nous en sommes venus à exister sur la Terre avec notre formidable corps, notre merveilleux cerveau. Comment tout cela est-il arrivé à exister? Eh bien là, l'astronomie et toutes les sciences nous donnent des renseignements. Nous racontent que nous vivons dans un univers qui a 14 milliards d'années, que cet univers était totalement instructuré, qu'il n'y avait pas d'organismes vivants, et même pas d'atomes, et même pas de molécules, et que c'est au cours de ces milliards d'années que, grâce à l'activité des étoiles, les étoiles jouent un rôle très important, les étoiles, ce sont des lieux au centre desquels il fait très chaud. Au centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. Et au centre de Sirius, une très belle étoile que l'on voit généralement à l'automne, il fait 200 millions de degrés. À ces températures, il y a des réactions nucléaires, comme celles qui se passent dans nos réacteurs qui nous donnent l'électricité, mais qui, elles, produisent de nouveaux éléments. Et tous les atomes dont nous sommes constitués, nous le savons maintenant, n'existaient pas au début de l'univers. Ils ont été créés à l'intérieur des étoiles, puis ensuite disséminés dans la galaxie, puis ensuite repris en charge quand le Soleil s'est formé et la planète Terre. Et donc nous devons à des phénomènes nucléaires dans les étoiles, des phénomènes galactiques, notre corps, le fait que nous soyons nés un jour, eh bien c'est le résultat d'une très longue histoire qui se passe généralement dans le ciel, pas sur la Terre, qui se passe dans le ciel, qui fait intervenir des galaxies, des étoiles, des planètes et tout cela. Donc ça, c'est, je dirais, ce que nous annoncent l'astronomie et les sciences. Ils racontent comment on en est arrivé à être ici aujourd'hui. L'écologie, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Eh bien, l'écologie, elle dit oui, tout ça c'est une belle histoire, mais attention. Ici sur la Terre, il y a des menaces graves qui se posent et nous avons failli à plusieurs reprises être éliminés de la planète. Par quoi? Ben, ceux qui ont mon âge ou un peu moins se souviennent de la guerre froide, se souviennent de cette période où des ogives nucléaires sur deux continents, la Russie et les États-Unis, ont été prêts à sauter à de nombreuses fois et on ne sait pas très bien comment on s'en est sorti. Mais aujourd'hui, au-delà de cette menace nucléaire qui est toujours là, nous avons cette détérioration de l'environnement qui pose aussi un problème pour l'avenir de nos enfants. Donc l'astronomie, c'est le passé, comment on en est venu être là. L'écologie, c'est le futur, comment rester sur cette planète dans des conditions convenables, habitables, agréables.
Et c'est là où ça se complique. Alors, dès les années 80, dans votre livre Poussière d'étoiles, hein, vous nous expliquiez cette fascination, le fait, justement, cette grande histoire dont nous sommes tous issus. Alors, je ne résiste pas à en lire un bref extrait. Vous écriviez « Les grands télescopes observent la naissance des étoiles au sein des nuages galactiques multicolores, leur mort, lente ou cataclysmique, qui sèment dans l'espace les poussières dont sont faites les planètes. La variété surprenante de ces planètes et de leurs satellites nous est révélée par les sondes spatiales. Puis s'orientant vers une planète bleue, la troisième en partant du Soleil, notre regard plonge dans l'océan primitif pour assister dans l'explosion de ses formes à l'émergence de la vie. » Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes tous des poussières d'étoiles. On apprend par exemple que l'oxygène vient des étoiles.
Exactement, tous les atomes, carbone, azote, oxygène, chacun vient de différentes familles d'étoiles. Et en particulier l'oxygène, puisque vous en avez parlé, l'oxygène il vient d'un type d'étoile qui s'appelle des géantes bleues cette fois. Et ceux d'entre vous qui connaissent bien le ciel nocturne, vous connaissez la constellation d'Orion. Je pense que c'est une des plus spectaculaires à l'automne. Elle est très belle, on la voit se lever. Orion, c'est un personnage. Et il y a ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Ce sont trois étoiles qu'on appelle aussi le baudrier d'Orion en termes astrologiques. Et ces étoiles sont des étoiles géantes bleues. Ce sont précisément des étoiles qui, en ce moment, sont en train de fabriquer de l'oxygène. Pas pour nous. Le nôtre, il vient d'étoiles beaucoup plus anciennes qui sont déjà mortes et qui ont disséminé leur matière dans l'espace. Mais peut-être pour des générations futures, dans le ciel, il y a continuellement ces générations d'étoiles qui se succèdent avec des naissances, des vies et des morts. Et chacune apporte sa contribution à la quantité d'atomes qui sont essentiels, bien sûr, pour la vie. Donc c'est toujours des promesses d'atomes pour des promesses de vie quelque part dans l'univers.
Et est-ce que c'est valable aussi pour l'eau?
C'est valable pour l'eau. L'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, il fallait d'abord que ces atomes soient formés dans le cosmos. Et ensuite, ils se sont rassemblés dans l'espace. On retrouve beaucoup d'eau dans l'espace sous forme de vapeur. Parce qu'il y a des endroits où on trouve de l'eau liquide, dans certains satellites, par exemple, mais surtout de l'eau vaporisée, mais qui va ensuite se recondenser dans des bonnes conditions.
Alors peut-être que si nous nous disions tous les matins « je suis une poussière d'étoiles », nous serions peut-être plus humbles, plus respectueux de notre environnement.
Oui, d'une part, et en même temps, c'est bon pour le moral. Ça va contre cette défaite, cette morosité qui s'instaure facilement chez les humains, de dire « nous ne sommes rien ». Quand j'étais enfant, on me disait « vous êtes cendre et poussière ». Ça veut dire « vous êtes rien ». Eh bien, c'est pas sain de se faire dire qu'on n'est rien. C'est sain de se faire dire ce qu'on est et nous sommes des merveilles. Le corps humain est une merveille extraordinaire. Le corps humain, il est fait d'atomes en grande partie. 60% de notre corps, c'est de l'oxygène, justement, et de l'eau. Donc tout ça, je crois que c'est important pour chaque personne, homme ou femme, qu'il retrouve sa dignité. S'il est un enfant de l'univers, il est un des produits de 14 milliards d'années d'évolution. Donc, a priori, il n'est pas rien. Et une personne qui m'avait écrit, c'est là que j'ai eu l'idée du titre d'un de mes livres qui était Poussière d'étoiles. Une personne qui avait lu ce message dans d'autres écrits m'envoie une lettre qui disait « On m'a dit, tu n'es que cendre et poussière. On a oublié de me dire qu'il s'agit de poussière d'étoiles. Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'il faut à la fois être humble, reconnaître ce que nous sommes, mais reconnaître que nous sommes des merveilles. Ça, c'est la réalité.
Et c'est peut-être un moyen d'éviter la situation décrite dans cette chanson d'un groupe québécois-canadien que vous aimez bien, Hubert Reeves. Les cow-boys fringants nous chantent plus rien.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la peine et qu'on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humain.
La Terre vue du cœur, c'est donc le titre du documentaire réalisé par Lolande Cadrin-Rossignol, documentaire dont vous êtes le fil rouge, comme on dit, Hubert Reeves, et qui vient de sortir sur les écrans français, belges, suisses, canadiens, et on espère bien que ce documentaire fera le tour de la francophonie. L'objectif, finalement, c'est de recueillir des témoignages de scientifiques, de philosophes, de personnes engagées pour créer une prise de conscience.
C'est-à-dire que à propos du titre, La Terre vue du cœur, des gens, quand ils ont appris ce titre, ils ont pas aimé, ils ont trouvé que ça faisait un peu kitsch. Moi, je me suis dit, je leur ai dit, c'est très important, aussi longtemps qu'on ne mettra pas de l'affectif, c'est-à-dire du cœur, on n'arrivera pas à mobiliser les énergies des gens. Vous ne vous mobilisez pas pour des idées, pour des connaissances érudites. Vous vous mobilisez quand vous sentez que vous êtes impliqué dans cette situation. Donc la Terre vue du cœur, c'est justement le but, c'est d'émouvoir les gens par rapport à des reportages, des personnages, des choses comme ça, pour leur donner l'idée d'aller plus loin que le mental, mais d'aller jusqu'au cœur.
Parce qu'on protège que ce qu'on aime, finalement.
Ben exactement, exactement. Mmh. On ne s'implique que dans ce qui nous touche émotivement.
Alors, le message se doit d'être à la hauteur de l'urgence, comme celle décrite dès le début du documentaire, d'ailleurs, par Karel Méran. Il est directeur général de la Fondation David Suzuki.
En 2006, j'ai été dans l'Arctique. J'ai été, en fait, au point habité sur Terre, qui est le plus au nord, qui est la base militaire de Alert, qui est tout à la pointe de l'île d'Ellesmer. C'est vraiment sur le toit du monde. On était là-bas et on étudiait la question du passage du Nord-Ouest. Est-ce que le passage du Nord-Ouest allait ouvrir? Et si oui, quand? Parce qu'avec les changements climatiques, on sait que les glaces fondent dans l'Arctique. Et donc, on est en juin 2006. On est sur le toit du monde. Il est 1h du matin. Le soleil est au zénith. On est en T-shirt sur le bord de l'océan Arctique. Puis là, on se dit, bon, quand est-ce que ça va ouvrir le passage du Nord-Ouest? Et les meilleures données scientifiques qu'on avait en 2006, c'était que le passage du Nord-Ouest ouvrirait probablement vers 2030, 2040, 2050. Je reviens chez moi quand même secoué d'avoir rencontré les Inuits, m'être fait raconter les changements dans l'Arctique. Et l'année suivante, en septembre 2007, un matin, je me lève, j'ouvre mon ordinateur et là, je vois une dépêche d'Agence France-Presse qui dit, selon les données de l'Agence spatiale européenne, le passage du Nord-Ouest était déjà libre de glace et ouvert. Donc, ce qu'on pensait qu'il prendrait 30 ans a pris 15 mois. Et là, c'est le premier moment où j'ai eu peur.
Hubert Reeves, est-ce que vous comprenez cette peur ressentie par Karel Méran?
Oui, c'est cette peur qui vient du fait que la situation se détériore beaucoup plus vite que tout ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que ce qu'on pensait être des changements, comme il le dit, dans plusieurs décennies, se passe pratiquement sous nos yeux. Ça, c'est l'aspect inquiétant de cette transformation. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a, en parallèle avec cette transformation, avec cette détérioration, il y a une restauration qui se fait un peu partout dans le monde et qui, elle aussi, croit beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. On a pendant longtemps pensé qu'on parlait un peu dans le vide quand on racontait ce qui se passait. Eh bien, ça n'est plus le cas. On le voit un peu partout dans le monde. On le voit en France, on le voit aux États-Unis. Alors, pourquoi aux États-Unis? C'est curieux, parce que vous allez dire, mais le président, M. Trump, vient de décider de sortir...
Oui, mais il n'y a pas que M. Trump aux États-Unis.
Exactement. Cet acte de M. Trump a éveillé une réaction très large chez énormément de gens aux États-Unis, dans beaucoup d'États, en particulier la Californie, la Nouvelle-Angleterre, le Texas. Il y a des réactions qui sont plus vertes que ce qu'on avait prévu. Vous voyez, quelquefois, des événements qui nous paraissent malheureux, eh bien, il y a comme effet secondaire des effets assez bénéfiques. Alors, c'est important de le dire, et ce film essaie de le dire aussi, il ne faut pas se polariser seulement sur les aspects détérioration négative. Il y a également des aspects, des mouvements un peu partout, beaucoup de villes, en particulier, c'est dans les villes que ça se passe le plus. C'est des décisions, par exemple, de verdir les villes, d'interdire les pesticides et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je dirais, un autre aspect qui est très important, c'est la question de l'énergie. Nous savons que, parlons de transition énergétique, il va falloir arrêter de brûler du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Ça, c'est sûr. Si on brûle tout ce qu'il y a sur la planète de pétrole, de charbon et de gaz carbonique, la température monte de 5 degrés. Alors, 5 degrés, ça paraît pas beaucoup. En fait, en pratique, c'est énorme. Ça va causer des problèmes écologiques, de tempêtes, de sécheresse. Absolument, on emploie le mot ingérable. On le voit déjà parce que les tempêtes maintenant, même les plus récentes, sont plus puissantes que ce qu'on prévoyait. Et donc, on atteint maintenant, par exemple, aux Philippines, on a atteint des vents de 300 km à l'heure. On pourrait atteindre 400, 500, et la plupart des villes ne résistent pas à des temps comme ceux-là. Donc, il faut bien mettre en parallèle le fait qu'il y a effectivement cette détérioration dont parle M. Méran, ce réchauffement qui est visible, des formations des routes, des formations des villes, mais en même temps, il y a des effets positifs qui sont tels qu'aujourd'hui, sachant qu'il faut arrêter de brûler le charbon, le pétrole, la question, la réponse à la question, mais qu'est-ce qu'on va prendre comme énergie, parce qu'on veut tous avoir de l'eau chaude dans notre baignoire le matin, eh bien, cette question, on parlait des énergies renouvelables, l'énergie solaire, les éoliennes, et je me souviens, il y a 30 ou 40 ans, tout le monde disait, ça c'est rien du tout, ça ne comptera pas. Ça n'est pas vrai. Ça commence à compter beaucoup plus vite que ce qu'on a pensé. Et maintenant, il y a plusieurs pays qui utilisent des énergies renouvelables, c'est-à-dire pas d'émissions de gaz carbonique qui réchauffent la planète, hein, c'est bien ça le problème, l'effet de serre, eh bien, ils atteignent des fractions de leur énergie de 30 ou 40% venant des renouvelables. Donc aujourd'hui, ça devient pensable de dire cette transition dans laquelle on va sortir de ces énergies carbonées et on va aller vers des énergies renouvelables et non polluantes, c'est une transition qui paraît possible. Alors je ne parle pas du nucléaire parce que je ne pense pas que ce soit une bonne solution, mais ça c'est un autre problème.
C'est un autre problème. Alors il faut aussi essayer de provoquer un sursaut de protection hein, vis-à-vis de la biodiversité puisque c'est surtout cela dont parle le documentaire. Provoquer de l'empathie. Alors dans votre documentaire, il y a plusieurs spécialistes qui démontrent à quel point les liens entre les êtres vivants sont intimes. Je vous propose d'en avoir un aperçu avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, je crois, qui s'appelle le botaniste Francis Allais. Il nous parle du langage des arbres.
Très bien.
Un acacia attaqué par une gazelle, en 20 secondes, il devient toxique. Ça, c'est déjà quelque chose d'étonnant, cette transformation biochimique fulgurante. Mais le plus étonnant, c'est que l'acacia attaqué, devenu toxique, prévient les autres acacias qui deviennent toxiques à leur tour. Il les prévient à l'aide d'un message gazeux qui descend le vent. Et donc, voilà, c'est une constatation qui a lancé une problématique maintenant très riche et qui continue à être très nouvelle, la communication entre les arbres. On s'en est aperçu dans les années 90 avec cet exemple de l'acacia et des gazelles d'Afrique du Sud. Mais maintenant, on s'aperçoit que les arbres communiquent entre eux. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud. C'est pareil chez nous. Alors, ils communiquent par voie aérienne, comme dans le cas de l'acacia. Ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine, par des soudures de racines ou par ces extraordinaires champignons qui les relient les uns aux autres et qui entrent en symbiose avec leurs racines. Les arbres, vous voyez, ont des quantités de manières de communiquer les uns avec les autres.
Le botaniste Francis Allais dans C'est pas du vent sur RFI. Hubert Reeves, donc les arbres communiquent entre eux par l'air et sous terre.
Oui, ça c'est une chose dont on prend conscience. C'est qu'on a toujours considéré dans le passé que les humains, c'était ce qu'il y avait de mieux, et que les animaux, on doit les asservir, les mettre à notre service. On s'aperçoit aujourd'hui que cette attitude dominatrice de l'humanité est une attitude qui amène à la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui comment nous sommes en train, avec nos œuvres, nos activités, de détériorer tout ce bénéfice que la vie nous apporte. Par exemple, les vers de terre, les abeilles, c'est des choses, on se rend compte que ça nous est essentiel. Si on élimine les vers de terre, on stérilise les sols. Si on stérilise les sols, on n'a plus de nourriture. Donc nous sommes dépendants de toute une partie de la nature qu'on a détériorée allègrement pour le profit à court terme, justement. Et cette prise de conscience se manifeste, ce texte de Francis Allais, je pense, est tout à fait dans l'esprit de la période, se rendre compte que nous ne sommes pas les maîtres et les meilleurs de la Terre. Nous sommes une espèce parmi tant d'autres, une espèce qui a besoin de s'intégrer dans un écosystème, que si elle détruit son écosystème, elle disparaîtra elle-même. C'est ça la leçon qui amène tous ces nouvelles connaissances scientifiques, de ces merveilles que sont, par exemple, les arbres qui communiquent entre eux, les oiseaux migrateurs qui retrouvent leur grange, les hirondelles qui retrouvent leur grange après un voyage de 10 000 kilomètres. C'est des choses qui nous dépassent. On s'aperçoit que nous sommes une espèce très intelligente et c'est précisément un de nos problèmes.
Alors, il y a quand même 80% des forêts originelles qui ont été détruites au siècle dernier. Les arbres, aujourd'hui, nous en faisons des meubles. Hein.
Oui.
Ça ne pèse pas encore grand-chose de dire que les arbres communiquent entre eux pour éviter de les couper. La déforestation progresse chaque année, je crois. L'équivalent de la Belgique est déforesté chaque année.
Oui, dans l'Amazonie, au Congo et en Malaisie. Ce sont trois régions où la déforestation se produit à pleine allure. Et cette déforestation, évidemment, c'est très contraire au fait que les arbres produisent de l'oxygène et donc sont un petit peu ce qui nous permet de respirer. Et puis, quand on les brûle, on fait du gaz carbonique, on s'aperçoit que notre comportement jusqu'ici, qui a été de dominer la nature, eh bien, ce n'est pas le bon comportement. Que si on ne se remet pas dans un état dans lequel nous vivons en harmonie avec la nature, nous profitons de la nature, bien sûr, mais d'une façon durable. quand on coupe les forêts, quand on... Vous savez qu'aujourd'hui, on pêche dans l'océan deux fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Donc nous, on est très intelligents, on est capable de faire des bateaux très, très, très performants, mais ce sur quoi on ne peut rien, c'est à quelle vitesse les poissons vont se reproduire. Nous rencontrons là les limites de notre activité. Ça, c'est quelque chose auquel on est arrivé, disons, vers les années 1950. Les êtres humains ont toujours saccagé leur planète, c'est pas nouveau. Mais dans le passé, c'était pas très grave, parce qu'il y avait pas beaucoup d'êtres humains. Maintenant que la population atteint des milliards, 7 milliards, et peut-être qu'on ira jusqu'à 9 milliards, eh bien, notre impact est majeur. Et notre impact, il est généralement négatif, c'est-à-dire que nous détériorons beaucoup plus que nous améliorons. Ça, c'est le problème. Justement, nous sommes une espèce très intelligente, nous sommes capables de faire des choses fantastiques, nous sommes capables de faire des bombes atomiques, mais nous ne sommes pas... Nous avons de la difficulté à gérer nos activités. Et aujourd'hui, si nous continuons, grâce à nos merveilleux instruments de pêche et de déforestation, à couper la forêt et à vider la mer de ces poissons, nous serons dans un état très négatif.
En fait, c'est une guerre de territoire qui est en train de se passer en ce moment. Il y a des chercheurs là, de l'université de Berkeley qui ont épluché 76 travaux de recherche effectués sur les 5 continents durant les 25 dernières années. Et leur constat est que pour fuir l'homme, qui a modifié, donc vous le disiez, hein, les 3/4 de la surface terrestre, eh bien, les mammifères ont choisi une stratégie, et je ne parle que des mammifères, ils augmentent leur temps de vie la nuit. Par exemple, les léopards du Gabon, qui vivent en général la moitié de leur vie la nuit, eh bien, vivent plus de 90% de leur vie la nuit pour fuir l'homme. Et c'est pareil pour les éléphants au Kenya, alors que l'éléphant voit mal la nuit.
Je ne connaissais pas ce document, mais ça me paraît tout à fait intéressant. Toute l'espèce vivante est obligée de réagir contre l'empire dominateur des êtres humains. Ça, il faut bien le dire, nous sommes... une engeance assez négative, mais aussi assez positive. Et je crois que ça, c'est important de le montrer. Quelquefois, des gens disent « bof, après tout, puis si les êtres humains se détruisent, c'est jamais qu'une anecdote. À l'échelle du cosmos, c'est pas grand-chose. » Et puis après tout, on pourrait dire « bon, ben, s'ils sont pas assez sages pour vivre avec leur intelligence, tant pis pour eux. » Moi, je ne pense pas comme cela. Je pense qu'on peut défendre l'idée que ce serait dommage si l'humanité disparaissait. Pourquoi ? J'ai trouvé 3 raisons qui me paraissent importantes, 3 éléments que les êtres humains ont apportés sur la Terre et qu'aucune autre espèce animale, de rares exceptions, ont apporté. Et ces 3 éléments sont ce qui fait que ça vaut la peine d'essayer de préserver l'espèce humaine. Le premier, c'est la culture, c'est l'art, c'est Mozart, c'est la jeune fille à la perle, c'est Van Gogh, c'est tous ces merveilles qui ont été produits par les grands créateurs. Rappelez-vous qu'il y a 500 ans, il n'y avait pas eu ni Mozart, ni Bach, ni Beethoven. Tout ça, c'est des œuvres humaines. Le deuxième élément, c'est la science, justement. Nous sommes la seule espèce qui a pu comprendre les lois de la nature, déchiffrer le comportement de la vie, faire des œuvres pour comprendre ce qui se passe. Et nous avons réussi à reconstituer le passé du cosmos. Aucune espèce animale n'a jamais fait cela. Et ça, nous le faisons parce que nous sommes en mesure de faire des instruments qui sont plus puissants que l'œil. Par exemple, les télescopes. Les grands télescopes nous permettent aujourd'hui de voir des galaxies qu'aucune personne n'a jamais vues dans le passé parce que l'œil animal ou humain n'est pas capable. Nous faisons des microscopes qui nous permettent de découvrir la vie microbienne, quelque chose que non plus personne ne connaît. On en souffrait déjà depuis longtemps parce que les bactéries ont toujours été présentes, mais personne ne savait ce que c'était qu'une bactérie, qu'un virus. Donc on ne savait pas comment le guérir. Alors le troisième élément, pour moi, le plus important, je le raconte avec une petite histoire. Voici un nid d'oiseaux. Et dans ce nid, il y a 4 oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les enfants en santé et laissent mourir les enfants malades. C'est ce que nous disent les biologistes. Pourquoi ? Quelle est la logique ? La logique, c'est que des oisillons en santé ont plus de chances d'avoir des gènes en santé, c'est-à-dire que pour la poursuite de la lignée, il y a plus de chances qu'ils soient favorables à la poursuite de la lignée, que les oisillons malades pourraient avoir des gènes avariés, ce qui n'est pas bon pour la poursuite de la lignée. Maintenant, prenons une famille humaine. Vous avez 2 enfants, un est malade, l'autre est en santé. Les parents s'occupent de l'enfant malade quelquefois plus que de l'enfant en santé. Ça paraît pas logique. Eh bien, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution pour que nous ayons, nous, et ça se retrouve aussi chez les dauphins ou les grands singes, mais assez rarement, pour que nous ayons ces sentiments altruistes. Les sentiments altruistes, ils naissent d'un événement, d'un sentiment qui est né pendant l'évolution, c'est ce que nous appelons la compassion. C'est le fait que nous souffrons de voir les autres souffrir, et nous sommes mobilisés pour les aider. C'est ça qui est à la base de la Croix-Rouge, la base d'Amnesty International, de toute la médecine. Tout ça, c'est quelque chose que les humains ont apporté et qui disparaîtrait également. Parce que les lions, quand ils rencontrent une gazelle malade, c'est pas pour la soigner.
Je vous laisse méditer ces paroles en musique, un morceau choisi tout particulièrement pour vous. Hubert Reeves, un extrait des Planètes de Gustav Holst, Neptune, la mystique. Neptune, la mystique, par le compositeur anglais Gustav Holst dans C'est pas du vent sur RFI, un morceau sélectionné tout spécialement pour vous, Hubert Reeves. Je rappelle que vous êtes astrophysicien, mais nous vous recevons aujourd'hui pour votre autre casquette, celle de défenseur de la biodiversité. Votre documentaire La Terre vue du cœur, réalisé par Lolande Cadrin-Rossignol, vient de sortir sur les écrans francophones. Et alors, vous aimez dire que la créativité musicale est comparable à la créativité de la nature?
L'idée, c'est de dire, ça vient de ceci. Quand vous lisez des biographies de musiciens, de vos musiciens favoris, d'artistes, on retrouve souvent dans certaines biographies des moments où les créateurs se sentent épuisés par la vie. Beethoven qui devient sourd, Van Gogh qui devient avec des problèmes mentaux, Rembrandt qui est chargé de dettes. Et des gens leur demandent, mais pourquoi vous continuez à créer, à faire votre musique et votre peinture, même dans des conditions invivables? Et la réponse qu'on retrouve à peu près toujours la même, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que si j'arrêtais de créer, j'aurais l'impression de mourir. Parce que c'est ce qui me garde en vie. Cette pulsion, qui est la pulsion de créativité, aujourd'hui, la science nous en montre un éclairage nouveau, qui est le fait que cette pulsion est tout à fait la même que ce qui s'est produit pendant toute l'histoire de l'univers, c'est-à-dire un univers qui naît dans un état complet de désorganisation, d'instructuration, qui se poursuit, qui s'organise progressivement. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de comment on est passé de cet état initial incohérent, instructuré, à l'état hautement structuré d'aujourd'hui, dans lequel nous avons des structures de toutes les dimensions, des galaxies, des étoiles, des animaux, des molécules, des atomes. Tout ça, ce sont des structures qui ont été inventées par, entre guillemets, quand je dis la nature, vous mettez des guillemets, qui ont été inventées, peut-on dire, par la créativité de la nature. Alors chacun met ce qu'il veut sur cela, ça c'est pas mon discours, mais il y a ce parallélisme, c'est-à-dire qu'on peut répondre à ce musicien qui dit « je ne peux pas faire autrement, je suis poussé par une pulsion qui me dépasse », on lui dit « tu es dans le prolongement de ce que la nature a toujours fait, puisqu'elle a toujours eu cette volonté, mettez des guillemets, de structurer la matière pour la transformer ce chaos primordial en quelque chose de hautement organisé, l'univers d'aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut dire qu'il y a cette analogie entre l'art, la création. Il y a une romancière canadienne qui s'appelle Antonine Maillet qui écrivait un livre qui s'appelait « L'artisan du huitième jour ». Et elle se basait son discours sur la Bible en disant le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre, il vit que c'était bon. Le deuxième, il créa les animaux, etc. Et le septième jour, Dieu vit que c'était bien, il se reposa. Mais, dit Antonine Maillet, l'être humain, elle, lui, a trouvé que c'était pas aussi bien que ça, qu'il y avait encore des choses à améliorer. Et il devient l'artisan du huitième jour. C'est-à-dire, c'est Beethoven, c'est Bach, c'est Mozart, c'est tous ces gens qui ont continué à embellir le monde. On a utilisé ce terme dans un spectacle que je fais avec des musiciens pour dire justement, comme morale de cette histoire, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas ni Mozart ni Beethoven, nous n'avons pas un auditoire à l'échelle de la planète, mais nous avons notre petit milieu familial, professionnel, dans lequel nous pouvons nous-mêmes continuer à embellir la réalité.
Et en utilisant notre intelligence et en acceptant aussi que d'autres aient d'autres formes d'intelligence, par exemple pour la biologiste Emmanuelle Puy-Débat, directrice de recherche au CNRS, l'intelligence, eh bien, c'est une fonction adaptative partagée par tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux possible aux contraintes du milieu et du contexte, que l'on ait des plumes, des mains, une trompe, 10 pieds ou 6 pattes.
J'ai une fascination pour les fourmis, parce que ça représente vraiment un magnifique contre-exemple à cette hiérarchie qu'on veut donner à l'intelligence avec l'humain comme un piédestal, enfin sur un piédestal. En fait, les fourmis sont des invertébrés, alors qu'on pense souvent, les humains sont les plus intelligents. Ensuite, il y a les autres primates, ensuite il y a les mammifères, ensuite il y a les vertébrés, etc. Bah oui, mais sauf que les fourmis sont capables de choses étonnantes. Et je prends cet exemple de la fourmi du Sahara, qui est capable de zigzaguer pendant plus de 600 mètres. Imaginez 600 mètres, c'est une piste et demie d'athlétisme. Et donc elle zigzague pendant 600 mètres pour trouver de la nourriture. Et une fois qu'elle a trouvé sa nourriture, elle rentre à la colonie, mais en prenant un raccourci. Et il y a des chercheurs qui se sont amusés, c'est pas moi qui ai eu l'idée de le faire, j'en suis bien triste. Ils se sont amusés en fait à mettre des échasses sur les pattes des fourmis. Et ils se sont rendus compte qu'en mettant des échasses à ces fourmis-là, elles allaient au-delà de la colonie. Ce qui leur a fait conclure qu'elles savaient compter leurs pas pour retourner à la colonie. Mais compter ses pas, ça suffit pas. Compter les pas, ça permet de retrouver la bonne distance, mais ça donne pas l'angle qu'il faut utiliser pour pouvoir entrer à la colonie. Donc c'est ce qui fait dire à certains que ces fourmis-là ont des espèces de cartes cognitives, une sorte de GPS à la fourmi qui leur permet de retrouver leur chemin et de prendre des raccourcis, ce qui est relativement complexe en termes de mémorisation et de navigation spatiale. Et c'est ce qui me plaît dans la fourmi, c'est qu'il n'y a pas un gros cerveau, il n'y a pas beaucoup de neurones, ce sont des ganglions, on ne parle pas de cerveau chez ces animaux-là, et pourtant elles font des choses étonnantes. Et c'est ça qui me plaît, parce que c'est vraiment un très bon contre-exemple pour montrer que l'intelligence, ça ne se résume pas à un gros cerveau. L'intelligence, on peut la voir comme un ensemble de comportements qui vont permettre aux individus et aux espèces de s'adapter à leur milieu et de trouver des solutions à des problèmes nouveaux. Darwin a vraiment apporté un élément essentiel en expliquant que c'était le plus adapté qui pouvait survivre. Et cette notion d'adaptation, on la retrouve aujourd'hui en étudiant aussi le comportement et pas seulement cette adaptation morphologique et physiologique au milieu et à ces changements.
La biologiste Emmanuelle Puy-Débat, extrait de votre documentaire La Terre vue du cœur, Hubert Reeves. Il existe donc de multiples formes d'intelligence et nous en avons besoin aujourd'hui.
Bien sûr, nous on a toujours valorisé la nôtre, mais beaucoup d'espèces animales ont des formes différentes. Nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs, nous avons chacun notre domaine. Et nous, notre premier domaine, qui est la pensée abstraite, c'est là que nous sommes les plus forts, c'est ce qui nous permet, ce qui a permis à Einstein d'écrire la théorie de la relativité. Il fallait quand même avoir une intelligence de pensée abstraite développée. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, et c'est ça le drame de notre période, c'est que c'est précisément cette intelligence qui, après nous avoir sauvés parce qu'elle nous a permis de manger et de vivre, et bien maintenant, grâce au fait que nous avons fait tous ces prodiges techniques, en particulier les bombes atomiques, nous sommes menacés par notre intelligence. Le problème aujourd'hui, c'est de gérer notre intelligence. C'est de ne pas permettre à cette intelligence de nous exterminer.
Aujourd'hui, certaines personnes pourraient dire on utilise notre intelligence pour créer de nouvelles technologies qui vont nous sauver, pour créer le transhumanisme, vous savez, prolonger les capacités des êtres humains qui pourront vivre plus longtemps, qui seront plus résistants, etc. Donc, est-ce que c'est ça, bien utiliser notre intelligence aujourd'hui ?
Bon, ben on va parler du transhumanisme, d'accord. Alors, souvent, on me demande ce que je pense du transhumanisme. J'aime bien raconter, là aussi, une petite histoire. Il y a 400 000 ans, les êtres humains sont arrivés à maîtriser le feu. Le feu, c'est aussi une bénédiction. Ça vous permet de vous chauffer. Mais vous pouvez aussi mettre le feu à la maison de votre voisin. Après, on a inventé l'électricité. Avec l'électricité, on peut s'éclairer, on peut faire des chaises électriques. Vous voyez, l'important, c'est que nous sommes intelligents, nous inventons toujours de nouvelles choses. Et le transhumanisme dont on parle, c'est précisément dans la lignée du fait que nous sommes capables d'inventer et nous inventons continuellement de nouvelles techniques. L'important, c'est qui va décider. Ces techniques, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Le feu, c'est ni bon ni mauvais en soi. Le feu, ça dépend de ce que vous en faites. Ces techniques en question dont vous parlez, précisément, elles ont des possibilités d'avoir des effets très positifs. Par exemple, vis-à-vis des handicapés, vis-à-vis des aveugles, vis-à-vis des gens qui ont des problèmes mentaux. Mais en même temps, vous pouvez en faire des petits soldats. Vous savez, c'est comme dans Brave New World de 1984. Donc, l'important, c'est qui va décider? C'est ça qui est l'idée. Nous jouons avec le feu. De plus en plus, nous faisons des feux de plus en plus puissants. La question, c'est qui va décider, qui va prendre le contrôle? C'est ça qu'il faut développer. Il se développe maintenant des comités de bioéthique un peu partout qui, eux, ont cette responsabilité. Alors, ce soit par le transhumanisme, où on peut très bien être illuminé. Par exemple, il y a une question aujourd'hui, un problème qui est très débattu, c'est d'essayer d'interdire des robots qui soient autonomes. C'est-à-dire des robots qui prennent leurs décisions sans avoir à demander à des êtres humains. Ben, vous voyez ce que ça peut donner. Là, vous voyez comment ça peut amener à des catastrophes. Donc, c'est ça le danger. C'est que nous sommes très puissants comme êtres humains, beaucoup plus puissants que toutes les espèces animales. Sur ce plan, nous sommes les meilleurs. Mais nous avons ce devoir de gérer cette puissance et de ne pas la laisser nous éliminer.
Et puis de la gérer avec une certaine humilité, justement en acceptant que nous ne sommes qu'une partie de l'écosystème.
Absolument.
Et pas forcément la partie la plus dominante.
Et que nous dépendons de l'écosystème, justement.
Et là, pour l'instant, notre intelligence ne va pas tellement dans ce sens-là. Ça se développe de plus en plus,
voilà.
Mais
il y a
c'est
beaucoup
un peu trop
de progrès. C'est toute la question. Est-ce que la restauration, le réveil vert auquel nous souhaitons, qui est précis, qui est exact, est-ce qu'il est assez rapide? Vous voyez, moi, j'aime bien dire la réponse à la question, est-ce que ça va mieux ou si ça va plus mal? J'aime répondre les deux. D'une part, la pulsion de détérioration, la déforestation, les océans que l'on vide de poissons, se produit, le réchauffement climatique se poursuit à grande allure. Mais en même temps, en parallèle, il y a une autre force, une force de restauration qui vient justement de tous ces mouvements écologiques un peu partout sur la planète. Et nous sommes devant un combat titanesque entre deux forces qui sont puissantes, qui prennent de plus en plus de puissance. Et qui va l'emporter? Personne ne le sait. Que sera cette planète dans 30 ans ou dans 50 ans? Personne ne le sait. Ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être bien pire. Heureusement, depuis quelques années, on est un peu sorti de cette période très fataliste où on pensait que c'était foutu. Quand on dit que c'est foutu, c'est foutu. Et nous voyons renaître des espoirs un peu partout qui font qu'on peut envisager, c'est un peu ce que ce film dont vous avez parlé avec Yolande Rossignol, c'est un peu ce que ce film veut dire, c'est qu'il y a en ce moment des éléments qui permettent de penser qu'il il y a peut-être un avenir. Donc l'important, quand les gens me disent qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut fermer le robinet, etc., etc., je dis, écoutez, dans les librairies, il y a des livres qui s'appellent 350 gestes pour sauver la planète. Il faut que ces livres-là ne restent pas dans les librairies. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut développer d'abord, c'est une attitude qui fait que les gens sont mobilisés et qu'ils sachent que nous sommes devant un combat majeur, encore une fois, l'état de cette planète dans 50 ans dépend des décisions qui sont prises maintenant. C'est maintenant, nous sommes dans un état critique. Moi, j'aime le comparer au début de la guerre de 39, quand les nazis gagnaient sur tous les plans et que beaucoup de pays étaient prêts à compromettre avec les Allemands, avec les SS, et qu'une personne, que j'ai toujours particulièrement admirée, qui est Winston Churchill, dit non. Simplement, il dit non. Je ne veux pas, c'est non. Quand j'étais enfant, j'étais chez les scouts et avant les grands jeux, il y avait ce qu'on appelait des veillées d'armes. Et tout le monde se réunissait pour essayer de ramasser les énergies. Nous sommes dans un état de veillée d'armes aujourd'hui parce que nous sommes face à la possibilité d'une immense catastrophe. Il n'est pas du tout certain que l'humanité va survivre. Il n'est pas du tout certain que l'humanité sera encore ici dans 100 ans. Il faut savoir cela et agir d'une façon dynamique. On ne peut pas simplement se contenter d'apprendre la planète vue de la tête. C'est pour ça qu'on a, j'aime bien ce titre, la planète vue du cœur, c'est-à-dire que ça réveille des énergies qui sont essentielles si on veut s'en tirer.
Et puis, vous êtes bien placé pour dire qu'il n'y a pas d'autres planètes habitables dans le coin.
Ça, c'est sûr. Et de toute façon, même s'il y en avait, et même si on y allait, qu'est-ce qui se passerait? Si on n'a pas appris à vivre sur la Terre, on transporterait nos propres erreurs, nos propres comportements. Il faut d'abord changer notre comportement vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des écosystèmes, vis-à-vis de la nécessité de vivre en harmonie avec la nature. Aussi longtemps qu'on continuera à saccager la planète pour le profit immédiat, si on le fait ici, on le fera n'importe où.
Merci beaucoup Hubert Reeves d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre documentaire La Terre vue du cœur, réalisé par Yolande Cadrin-Rossignol. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and